Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up, le dernier podcast du stand-up survivant avec Sofiane Mbarki.
Bonjour à tous les amis blagueurs et et bonjour à tous.
Il n'y a pas que des amis blagueurs qui viennent là, Sofiane.
Ah bon ?
Ouais, j'ai des gens très intelligents qui viennent sur Stand Up France, j'ai des gens de la Sorbonne qui sont venus étudier Stand Up France.
De la Sorbonne ?
La Sorbonne, parce qu'ils ont, tu sais, ils ont des cursus d'études sur la langue, sur l'évolution de la langue et tout. Donc ils viennent un peu sur Stand Up France voir mais c'est quoi le stand-up. Et comme il n'y a que Stand Up France, eh ben, ils sont ravis de nous inviter à la Sorbonne.
Pour faire des on a un vocabulaire incroyable en plus, on utilise énormément de mots.
Donc... C'est ça, on déploie, voilà. Voilà, j'ai même pas le mot, j'ai même pas le synonyme de vocabulaire. En tout cas, oui, on est écouté par les amis humoristes, on est écouté par des gens qui aimeraient se lancer, on est écouté par des gens qui étudient vraiment le stand-up. Donc, on a ces trois populations qui se rejoignent, ben, tant mieux. Les podcasts reprennent régulièrement, vous le voyez dans vos lecteurs, dans vos petites applications de podcast. On est disponible sur Spotify, on est disponible sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Deezer, tout ça, c'est gratuit. On va essayer de maintenir le rythme d'une fois par semaine, car c'est comme ça qu'on aime parler de stand-up. Alors, cette semaine, j'ai noté quelques sujets, quelques mini-sujets qui répondent à des questions qu'on a pu me poser sur Instagram ou qu'on a pu me poser en live, et j'aimerais qu'on en parle ensemble.
C'est parti.
Le premier, je vais essayer de ne pas mettre trop d'émotion sur le premier sujet. C'est la façon dont les comédiens démarchent les scènes. C'est-à-dire quand un comédien veut jouer sur telle ou telle scène, la façon dont il doit s'y prendre et la façon dont ils s'y prennent actuellement. Okay. Donc, j'ai un souci avec la façon dont beaucoup de gens s'y prennent actuellement sur les quelques scènes que je peux gérer moi, en tant que producteur ou en tant qu'organisateur.
Bah, raconte-nous déjà comment ils s'y prennent avec toi.
Alors, je vais ouvrir mes DM. Je vais ouvrir mes DM et tu vas de suite comprendre. Donc, c'est le DM du ex-comedy club. Donc, c'est un comedy club que je gère depuis quelques années. Et c'est à base de... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous savoir s'il était possible de venir jouer chez vous. Bon. Je ne sais pas trop quoi répondre quand on me dit un truc comme ça, en fait.
Ouais, bah c'est typiquement le genre de message auquel je ne répondrai pas.
Mais moi, ça m'énerve parce que je ne veux pas ne pas répondre, en fait. Ouais. Ou une autre demoiselle qui m'avait posé la question pour venir jouer et tout. Et après, quand j'ai mis la story de l'événement avec casting, j'ai mis le nom d'un casting, il m'a dit casting pour point d'interrogation, c'est des passages combien de temps point d'interrogation. Je fais attends, je travaille pour toi quoi là, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est mais surtout c'est qui ces gens-là? C'est des gens d'Aix, c'est des gens de toute la France qui veulent venir parce que toi tu gères le Comedy Club à Aix, Aix-en-Provence. Ouais. Et on les connaît à peu près tous les humoristes du sud là aujourd'hui. Donc on peut connaître leur nom et tout.
Ah bah alors, attends, je prends l'exemple en live. Et vous allez voir à quel point c'est plus intelligent. Bonsoir, je suis élève dans le cours de Sofiane à l'Ardu. Et je voudrais savoir s'il y a une place pour le mois de mai ou juin. Un extrait d'un de mes passages. Elle me met un lien YouTube. Bonne soirée. Mais c'est évident que c'est vers les gens comme ça que je vais aller.
Ouais, bah c'est aussi parce que je leur ai dit comment faire pour envoyer un message à... En gros, je leur ai dit... que quelqu'un qui gère un plateau est inondé de messages tout le temps. Et donc, c'est un peu cette idée de pourquoi est-ce que je vais regarder ton message. Déjà, s'il y a un passage, c'est bon signe. Ça veut dire que t'as déjà joué, que t'as pris le temps de faire une vidéo, que t'as pris le temps de dire voilà ce que je fais, si ça t'intéresse ou pas pour ton plateau, je sais ce que je vaux, je sais que je commence, etc. C'est une histoire de respect, mais moi, genre, quand j'étais à Paris, par exemple, j'envoyais plein de messages partout. Et je pense qu'il y a aussi une frustration de l'autre côté des humoristes qui ne vont jamais répondre.
C'est pour ça que je ne veux pas ne pas répondre.
Ouais. Mais je pense qu'il y a une bonne façon de faire. Enfin, il y a la meilleure façon de faire, comme on dit tout le temps, c'est de se pointer au Comedy Club, hein, en vrai.
Moi, je crois que j'ai jamais refusé quelqu'un qui était venu au Comedy Club voir et qui m'a dit ah, « comment on fait ?» Même quand la personne n'a jamais fait de stand-up, je lui fais bah, « écoute, viens le mois prochain, tu as vu comment ça se passait ?»
Ouais. T'en penses quoi des formulaires d'inscription ?
Je crois que ça écrème. Donc, je pense que quand tu es une unité de... un peu grosse comme peut l'être l'Ardu, comme peut être le Paname, quoi, peut-être que ça enlève un peu des candidats à la base, en fait.
Ouais, mais c'est. Moi, je trouve que c'est une bonne méthode. En plus, tu mets ta vidéo dans le formulaire, sinon tu peux pas l'envoyer, etc. Il y a tout un truc. Mais en tout cas, si vous voulez jouer en général, bah, préparez une petite vidéo de ce que vous faites. Même si c'est pas ouf, même si. Un truc avec un minimum de qualité, pas besoin d'avoir un truc filmé en 4K, mais un truc où on entend et on voit un peu. Voilà. Et
Ouais, et
dire
puis il n'y a
bonjour.
même pas d'excuse pour pas bien le filmer en fait. Hein. Vous pouvez, c'est facile à bien filmer avec un téléphone hein, en vrai.
Ouais, mais des fois t'as pas la qualité extrême, etc. Tu vois.
J'entends. Mais là, tu vois, rien que le fait que la personne ait fait la démarche, mais mis le truc sur YouTube, je vais. Ouais, non, je vais pas prendre 10 minutes ou 5 minutes pour regarder la vidéo. Je vais
Ouais.
pas le faire. Je vais même pas essayer. Je me dis, ok, elle a fait la démarche. Rien que ça me va très bien. Ça veut dire que je peux avoir une discussion avec elle, mais je vais pas, moi, juger si ce qu'elle fait, c'est bien ou pas bien. En vrai, mais juste le fait qu'elle soit mise dans les clous et dans un système de je suis agréable, je te dis d'où je viens, et je te montre ce que je fais. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça, c'est les gens qui me vendent une histoire mais qui peuvent pas me la prouver.
C'est-à-dire.
Bah, quand on me dit oui, j'ai fait quatre scènes, j'ai fait si, je suis champion du monde de stand-up, tu sais quoi, en vrai, tu m'enverrais une vidéo, ça serait tellement plus simple.
Ouais, surtout que c'est pas ben le ex-comedy club, c'est pas l'Olympia, quoi. C'est t'acceptes tout le
Mais
monde.
j'ai des messages de toute la France et je suis obligé de dire, de rappeler les gars, c'est un open mic. Moi, ça a toujours été un open mic, c'est mon laboratoire. Je comprends que vous soyez motivés, mais ne venez pas, ne faites pas plus de 20 minutes de voiture pour venir nous voir. C'est
Ouais,
ridicule, ne
ça
venez
aussi,
pas de
tu
Paris
m'avais
pour ça.
raconté quelqu'un qui voulait venir du nord de la France pour faire 5 minutes au Ex Comedy Club.
Mais c'est arrivé, hein. Ça nous arrive, on a eu du Toulouse, on a eu Bordeaux, mais c'est en fait c'est ridicule parce qu'à la fin, je suis très transparent sur les revenus, sur le truc, ça reste un petit open mic. Si tu repars avec 40 euros, c'est le bout du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, on paye le MC, on paye le DJ, on paye le photographe. Et donc c'est cool, je suis content on va dire, le marketing fonctionne, que les gens aient envie de venir. Mais il faut pas se mettre dans des situations frustrantes pour tout le monde, en fait. De la même façon, pour vous, ne traversez pas la France juste pour faire une demi-scène. C'est ridicule.
Bah, surtout qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, avec l'essor du stand-up, de faire un peu des tours de France. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ça et tout. Donc à ce moment-là, si c'est cette démarche-là, tu peux essayer de demander. Moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent pour jouer à l'Ardu, qui disent, voilà, je vais faire un petit tour du sud, je viens à Marseille à ce moment-là, je vais jouer là-bas, est-ce qu'il y a une date pour moi, après je serai à Montpellier, etc. Je trouve que c'est ça, c'est sympatoche, tu vois,
Ouais, ça
d'avoir.
peut, mais ça s'inscrit dans une démarche, tu comprends un peu le truc et il y a presque une plus-value à les avoir des fois. De
Ouais.
dire, ah ouais, d'accord, c'est quelqu'un que j'aurais peut-être pas eu en temps normal, mais là, il est là, ça, c'est l'occasion.
Ouais, de ouf. Non, en tout cas, il y a deux méthodes, hein, si vous voulez demander un comedy club. Vous y allez sur place. C'est le meilleur moyen. Vous allez sur place et vous vous présentez, vous parlez aux gens, quoi, normalement. Et moi, c'est ce que je faisais pas avant. Hein, quand j'étais à Paris et tout. Mais c'est vraiment le meilleur truc, quoi. Tu te présentes, les gens voient un être humain, ils se disent, ok, cet être humain a l'air cool, let's go, quoi. Et sinon, envoyer un message avec une vidéo et un message respectueux, pas un message avec des formules de politesse, des sujets, des verbes, des compléments, pas bonjour, jouer, moi, dispo.
Et des disponibilités, mais massives. Moi, j'essaye, quand je fais ça, de me mettre toujours en position de, écoutez les gars, s'il y a un désistement, s'il y a quelque chose, je prendrai le truc.
Ouais, bah, l'article là il y a un article de la revue A qui est sorti sur Nantes
Ouais.
où il y avait un interview de Maxime Stockner et Johan
Tout.
ouais. Et ils disaient que ils ont arrêté leur travail là parce qu'il faut être disponible dans le stand-up. Faut être prêt à être là et à dire oui, je suis dispo dans le moment, etc. T'en penses quoi, toi?
J'en pense que le hack pour moi, le stand-up, c'est Paris. Faut être à Paris. Et pourquoi c'est un hack? Parce que là-bas, les conversations vont vite et c'est des opportunités. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de faire une première partie à droite, d'avoir un appel d'un pote qui me dit, écoute, l'autre, il a besoin d'une première partie, c'est annulé, est-ce que tu veux prendre la pige? Et je m'aperçois que je suis à 500 mètres du Lotéa, donc je peux direct enchaîner. Mais si je ne suis pas là, déjà, on ne m'appelle pas, je ne peux pas répondre à l'appel. Il y a vraiment un truc de très vertueux à se rendre disponible et à dire, écoutez, je suis là pendant cette période de temps, je suis malléable et appelez-moi pour n'importe quoi.
Ouais, bah même à Marseille, quoi, dès qu'il y a eu une annulation, bah on sait vers qui aller, etc. Le fait d'être dispo et d'être là, c'est super important dans ce milieu, quoi. Après, pour moi, juste vite fait, pour moi, le meilleur moyen, je le répéterai tout le temps, parce que j'ai plein de gens qui me disent oui, mais je joue pas assez, mais j'ai pas accès à là-bas. Ben, ouvre ton plateau. Et tous les gens qui ont suivi ce conseil, qui ont ouvert leur plateau, bah, depuis qu'ils ont leur plateau, bah, tout le monde les appelle parce qu'ils veulent jouer dans d'autres plateaux, etc.
Ah, c'est une grosse monnaie d'échange. On a vu des gens là, shifter complètement, prendre le contrôle de ville entière.
Ouais.
Et avoir une monnaie d'échange, et ça a changé, ça a été un game changer pour eux.
Big up à Max Dana.
Oui, Maxime qui... Bon, lui, en plus, c'est logique, c'est un gars, c'est un gars de Toulon, donc Toulon, c'est à 45 minutes de Marseille, il venait jouer à Marseille. Et le peu de plateaux qu'il avait à Toulon, il n'avait pas accès, il a vraiment fait de façon empirique. Il a créé son premier plateau, ça a marché, on l'a contacté pour un deuxième, ainsi de suite. Et après, forcément, il a plus de leviers pour jouer sur les plateaux dans la région. Et c'est tout à fait logique, parce qu'il apporte, si tu joues chez lui, ben, tu auras ton chapeau, tu auras des trucs, il y a une vraie économie.
Et donc globalement, genre, l'idée c'est que l'excuse de « il n'y a pas de stand-up dans ma ville », c'est le contraire du coup. Vu qu'il n'y a pas de stand-up dans ta ville, ben, ça veut dire que tu as toute la place pour faire. Après, il faut trouver les stand-uppers. L'avantage c'est qu'il est à côté de Marseille. Mais,
entre autres. Mais tu sais, il y a toujours... Non, mais il n'y a pas... Il serait allé de l'autre côté, il aurait pris des gens de Nice. C'est pas ça qui manque, les gens qui vont rester sur scène. C'est juste... Au lieu de dépenser de l'énergie, de l'argent et tout, de traverser la France pour faire une demi-scène ouverte, montez votre truc de votre côté, ça sera 100 fois plus simple.
Ouais.
Et pour ajouter un petit hack à la première méthode que tu disais, où il faut aller sur place et tout, moi je vous recommande d'être vraiment dans des rapports humains d'une simplicité enfantine, mais faites-vous présenter, essayez de voir si vous ne connaissez pas une personne qui fait déjà le Comedy Club. S'il n'y a pas un de vos copains, une de vos connaissances qui a déjà participé, qui peut lui vous introduire à ce niveau-là, c'est tellement, moi je le dis, hein, c'est tellement plus simple quand quelqu'un me dit je viens de la part de Sofiane, je viens de la part de Bédou ou quoi. Ouais, la moitié de la conversation, elle est faite dans ma tête.
Ouais, c'est...
Par contre, ne le faites pas si ce n'est pas vrai, parce que ça c'est super problématique aussi, ça arrive, hein, qu'il y ait des fans comme ça. Où la personne tourne la phrase à façon à ce que tu crois qu'elle vienne de la part d'eux, mais en fait, pas du tout. Mais bon, on les repère, ces gens.
Ouais, écoute, hein, c'est les gens, ils ont faim de scène.
Ouais, fin de scène, mais il y a vraiment, tu vois, tu as relevé un truc, une phrase qui revient souvent, là. C'est « j'ai pas assez de scène, j'ai pas assez par rapport à quoi ?» J'arrive pas à comprendre, moi, j'ai vraiment du mal avec... Et je comprends la frustration, je comprends ce qu'il y a derrière. Mais il faut se détendre. Tu n'as pas assez par rapport à quoi ? De toute façon, ce n'est pas ton métier. Détends-toi.
Oui, mais même, c'est... Plutôt que de... Plutôt que de signifier un problème, signifie une solution, quoi, c'est tout. Genre. Moi, j'ai plein d'élèves... J'ai plein d'élèves qui vraiment m'ont dit « je ne joue pas assez ». Et vraiment, depuis tous ceux qui ont ouvert leur plateau jouent beaucoup plus. C'est...
Ça fait sens. Hein. Et les plateaux, moi je le dis, là, il y a plein de plateaux qui sont bidons.
Ouais, c'est bidon.
Mais c'est bien quand tu commences d'avoir des plateaux bidons, de gérer un plateau bidon, ça t'apprend à gérer celui d'après, ça t'apprend à qu'est-ce qui fait le succès d'un plateau. Et bizarrement, ces gens-là, quand tu leur parles après, c'est ceux qui posent moins de problèmes quand tu les invites, dans le sens où ils ont compris. Tu vois, ils ont compris qu'il faut que quand tu es organisateur, il y a plein de trucs que tu dois surpasser.
Ouais, bah c'est ça. Et ça vous apprend plein de trucs, quoi.
Voilà, donc ouvrez vos plateaux. Un truc qui est important, c'est vraiment, je le répète, vraiment, quand vous envoyez des messages, attention à l'attitude, attention à ce que vous dites. C'est pas anodin, moi, je vous assure. Quand il y a des gens qui arrivent à me crisper en deux messages sur Instagram, Je me dis, c'est impossible que je les fasse jouer après. Et ces trucs, bizarrement, c'est des trucs négatifs qu'on retient. Ouais, des fois, il y a des gens, je me dis, ça fait un an qu'ils m'ont envoyé un message. Je me dis, mais jamais je les rappelle ou quoi, parce que ça. C'est, j'ai pas aimé la vibe qui se dégageait de cette personne-là. Quoi.
Oui, oui. Après, ça va, les gens, ils changent et tout, c'est pas trop grave.
C'est pour ça. C'est pour ça. Mais après, il faut qu'ils trouvent le moyen. C'est... Moi, quelqu'un qui a fait ça, mais après, si toi, tu viens me dire, oh, non, mais il est cool et tout, forcément, je vais avoir plus enclin à l'écouter, mais. Tu vois, il y a cette première approche, des fois, qu'elle est antipathique, elle est dure à dépasser. Ça peut te retarder le moment où tu obtiens ton résultat, où tu peux aller jouer sur le plateau, ou voilà.
Il y a l'effet aussi des gens qui commencent à jouer, qui tombent amoureux du truc, et qui se retrouvent confrontés au fait que c'est assez difficile d'accès au début.
Ouais.
Surtout quand on n'est pas à Paris. Comme il n'y a pas énormément de plateaux, il y a déjà beaucoup de places qui sont prises et tout ça.
Mais même à Paris, un mec qui commence à Paris, moi j'ai des gens, tous les jours j'ai des messages, hein, comment on fait pour jouer à Paris ? C'est pas acquis, c'est pas... aujourd'hui jeudi, je pense qu'il y a 20% des stand-uppers qui prennent 80% de la thune en stand-up.
Ouais.
Et encore, je suis gentil parce que je pense que c'est 2%, 98%, je pense, le vrai ratio, mais... Mais voilà, même à Paris, c'est dur. Mais c'est petit à petit, c'est par itération. Une scène t'amène à l'autre, une connaissance t'amène à l'autre. Moi, j'ai souvenir vraiment. Au début, tu vas seul sur le plateau. Puis tu fais un autre plateau, tu revois une personne ou deux. Te dire, on est frère de galère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un peu moins galérien ? Chacun a ses idées. D'un coup, il y en a un qui dit, mais moi, dans mon village, il y a ça. Donc, tu vas dans son village. Et c'est comme ça qu'on construit... des relations, des amitiés, des compagnons de route.
Bah, y a plein de gens ici, même quand vous accueillez bien chez vous, qui vont vous proposer des choses dans d'autres endroits, etc. Ça, c'est une question de... Ouais, ça fait partie du truc, quoi.
Et après, là, on parle du début. Hein. Après, il y a un moment où, et je vous le souhaite à tous, où peut-être vous avez des leviers de la notoriété, où là, ça peut fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que ce sont les gens qui vous contactent automatiquement pour aller jouer chez eux. Mais même à ce moment-là, je vous assure qu'il faudra quand même faire certaines démarches pour aller jouer sur les trucs qui vous intéressent réellement. Parce que quand vous a proposé de jouer d'un grand comedy club, peut-être que vous voulez jouer à la Tour Eiffel. Quand vous avez joué à la Tour Eiffel, peut-être que vous voulez être sur le plan à l'Olympia. Mmh. Et bien là aussi, il faudra aligner les cartes, voir qui c'est qui peut vous mettre sur ces plans-là, comment ça se passe. Et à ce niveau-là, bien sûr, la condition sine qua non, ça sera d'être artistiquement abouti. Ce qui n'est pas obligatoire aujourd'hui quand vous commencez. Mais c'est déjà mieux, honnêtement, il n'y a pas meilleur pub que si on vous voit sur une scène, que ça se passe très bien, mais forcément, on vous propose naturellement aussi d'aller ailleurs. Hein.
Et globalement, il y a aussi un truc, c'était une story qu'avait fait Fanny Rué sur une question qu'on lui a posée de comment jouer dans des comedy clubs, enfin, comment commencer en stand-up, elle avait dit jouer beaucoup, mais jouer là où on se sent bien, principalement. Et c'est-à-dire que je pense que ça... Des fois, on a des envies et le graal de certains, c'est certains endroits. Mais c'est bien de jouer dans des endroits prestigieux, mais pas quitte à se faire chier dessus, quoi. Donc, si vous vous sentez pas bien quelque part, ça change rien. N'hésitez pas à partir, ça va pas changer votre vie, quoi.
Ah, ça a rien changé. Il y en a plein qui ont quitté des endroits très prestigieux, des gros noms du stand-up. Et ça n'a rien changé à leur carrière et ils seraient restés, ça n'aurait rien changé non plus. Hein.
Ouais.
Et il faut, pareil, au début, on privilégie la quantité à la qualité. En fait, il y a des endroits où même si c'est un grand nom, on s'abîme. On s'abîme, pourquoi ? Parce que l'environnement n'est pas sain, la rétribution n'est pas correcte, les gens qui sont au-dessus de vous ne sont pas corrects, les gens qui sont à côté de vous ne le sont pas. Et si vous voyez que ça vous coûte plus que ce que ça vous rapporte hein, humainement,
ouais, il y a des gens que ça dérange pas et qui sont juste dans le taf et tout. Il y a des gens qui c'est plus compliqué. Si c'est compliqué pour vous, n'y allez pas, quoi. Ça sert à rien.
Ouais, vraiment. Et si et je rajoute le pendant, je suis désolé de rajouter, je pensais pas devoir le rajouter à ce stade-là du millénaire, mais si vous êtes une nana, ce problème-là, il peut être encore plus fort. Ouais, j'ai constaté que l'accès au comedy club et là, l'ambiance, des fois, c'est encore plus problématique pour les demoiselles. Et les situations s'arrangent rarement, en fait. Quand un comedy club est connu pour être problématique avec les nanas, il reste problématique avec les nanas.
Ouais.
Donc, vous avez la chance, si vous avez la chance d'en parler, parlez-en avec vos confrères. Voyez si confrontés, mais vous dites pas, moi, je vais être l'exception quand je vais y aller, ça va bien se passer avec moi.
Allez là où vous sentez bien, quoi. Testez, allez là où vous sentez bien.
Super. Mais écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour des petits trucs pour de ce côté-là. J'en rajoute un petit truc qui me. Moi, je me poserais la question, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai des gens qui mettent stand-upers sur leurs réseaux sociaux.
Ouais.
Ils ont peut-être fait deux scènes. Alors, qu'ils se sentent stand-upers, oui. Qu'ils fassent du stand-up, je le vois. Peut-être ils ont fait deux scènes. Mais au niveau de l'image, je me demande vraiment si ça apporte quelque chose et si. Ouais, ça me. Tu vois, en tout cas, ça me questionne. Tu vois, comment on voit ça? Je crois que quand tu es stand-upper, tu n'as même pas vraiment besoin de le préciser, quoi.
Ouais, moi je pense qu'on s'en branle quoi, c'est des réseaux, c'est comme quand t'écris traveling, travel et Algéro italien, tu vois, genre c'est l'Instagram de ma cousine ça. Mais on s'en fout, c'est je sais pas
Ouais,
moi,
mais moi, ça me
ça
pose problème, c'est quand quelqu'un commence qu'il y a ça, je me dis, putain, mais ouais, c'est mettre la charrue avant les bœufs, quoi.
bah non, c'est juste des réseaux, c'est de l'image, on sait comment ça marche Instagram, hein.
Mais
Franchement
c'est ce
ça.
que je te dis, justement, je pense que l'image que ça envoie, à mon niveau, pour moi, ça me repousse plus que ce que ça m'attire.
Ouais, je sais pas. Moi, je regarde même pas les comptes des gens, donc
On le savait, on a déjà parlé qu'elle est marquée machin stand-up, déjà te dit, oh là 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 là. Compliqué.
ouais. Mais moi, pour moi, ça a vraiment aucune valeur, quoi. Vraiment, on s'en fout si le mec veut
Ouais,
mettre
c'est
ça.
de l'ordre du détail. Par contre, ce qui n'est pas de l'ordre du détail, que je. Et c'est pas un problème, c'est normal qu'on y arrive. Il m'est arrivé un truc là. C'est que sur les comedy clubs donc, que j'organise, je laisse accès à pas mal de premières scènes ou des gens qui n'ont pas beaucoup de scènes. J'essaie de faire un melting pot de tout, des gens que je connais, des confirmés, que je produis ou que voilà, qui se produisent dans des grandes salles, et d'autres gens qui débutent plus. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup dans les deux sens.
Ouais.
Et je me retrouve face à des gens qui me disent, mais moi, je m'appelle Michel. Je comment ça? Et moi, mon nom d'artiste, c'est Michel. Je fais,
Ouais.
mais tu peux pas être Michel. Parce qu'il y en a plein des Michel. J'ai fait, c'est sur l'affiche. Je vais faire une affiche, je vais faire de la com, je vais. Voilà, on va communiquer, on va partager ça avec l'organisateur, partager ça avec le lieu d'événement et tout. Et sur l'affiche, ça fait pas super bien. Je peux pas annoncer le prochain, c'est Michel. Parce que personne te connaît. Et je le fais une fois, tu vois, j'ai cette conversation une fois. Puis après, il y a la deuxième. Moi, c'est Cécile. Je fais, attends, mais c'est pas possible. Et sur lui, j'en ai eu quatre qui m'ont fait ce truc-là de dire, moi, mon nom de scène, c'est mon prénom, mais juste mon prénom. Mais c'est des prénoms, mais incroyablement communs en plus.
Ouais, mais globalement, quand tu commences, tu te poses pas cette question. Tu dis juste, je vais faire des blagues. Après, oui, quand tu vois, tu dis, il faut que je me différencie, etc.
Au-delà de ces différences, il faut t'identifier.
Faut t'identifier, oui. Mais c'est. Moi, quand j'ai fait ma première scène, je me disais pas, il faut que je me trouve un nom de scène. Je pensais même pas au fait que j'ai un nom de scène, parce que pour moi, je commençais.
Mais ces noms étaient, c'est ton nom et ton prénom.
Oui, mais. Je sais pas, c'est un réflexe. Moi, je dis Sofiane Mbarki, parce que c'est. Mais je comprends quelqu'un qui vient et dit, moi, c'est Sofiane. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sofiane. Parce qu'il se dit pas, moi, je suis une star. Il se dit pas que les gens. Tiens, ça aussi, c'est une question. Genre, est-ce que. Genre, parce qu'on met les noms des gens dans le line-up et tout.
Ouais.
Est-ce que ça sert à quelque chose?
Moi, je sais à quoi ça sert quand je le fais.
Pour moi, ça sert à les identifier, comme ça ils repostent sur leur Insta, c'est tout. Mais sinon.
Ça, et ça leur sert à, tu sais, à s'habituer à avoir une image, à avoir leur nom, à avoir une image, à se positionner.
Ouais.
Ça ne sert pas. Moi, j'ai, en tout cas, sur le niveau open mic, tout ça, ça ne déclenche pas de vente. Tu vois, c'est pas de la transformation. Par contre, quand je fais un plateau, que je vais identifier Alexis Le Rossignol, Elodie Arnoux, les potes. Là, je sais qu'eux, ils ont des communautés, ils ont du levier.
Ouais.
Même, je pense que le calcul, quand même maintenant, à mon niveau, quand certains me mettent sur le truc, et forcément, ils vont essayer de mettre en avant ceux qui ont le plus de réseau de levier.
Ouais,
Mais ça ne sert qu'à un certain niveau, je pense.
ouais, mais c'est une vraie discussion que j'ai eue. Et moi, L'argument qu'on m'a dit, parce que moi je disais ça sert à rien, pourquoi on met le nom? On met fait des trucs sans le nom et tout, c'est que ça met de l'humain dans l'affiche, tu vois, de mettre
C'est possible,
le nom
c'est
et tout.
tout à fait possible. Moi, j'essaie de starifier, tu vois, sans exagérer, mais j'essaie de dire, quand c'est sur l'affiche, tu as une valeur, tu as un nom, tu es identifiable et tu existes déjà.
Ouais,
Rien que
donc.
le fait que tu te poses la question sur qui tu es sur une affiche, je trouve que ça te fait franchir une étape mentale.
Ouais. Après, moi j'aime bien le. Tu vois, Oussar Fati, ils disent pas de nom, mais c'est parce qu'il y a que des restas, donc c'est.
Il y a une promesse.
Il y a une promesse derrière.
Au Paname, ils vont annoncer tous les noms, mais c'est que des gens que tu veux pas voir.
Mais c'est vrai que globalement, c'est déjà arrivé avec des débutants et tout. Bah là, il n'y a pas longtemps, on a deux Guillaume chez Pascal et moi en élève.
Donc Pascal qui donne aussi des cours
Qui
dans la
donne
même
des
structure que
cours.
toi, hein.
Et donc, les deux, bah, ils se sont appelés Guillaume.
Mais c'est des
Et
guignols.
donc le MC, il revient, c'est des
C'est deux
guignols.
guignols. Moi j'appelle premier guignol et
Il est
deuxième
dur là,
guignol.
ils ont 2 mois de stand-up, c'est bon, tranquille. Mais...
Mais il faut s'appeler. Donne ton nom de famille.
Oui, ben c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, on va donner votre nom de famille, et puis ça va être votre nom de scène. Moi, j'ai fait le cours où je leur ai dit c'est quoi votre nom de scène, etc. Mais c'est vrai que tu te retrouves dans des trucs où tu as 3 Guillaume,
Mais
5
comme à
Rémi
l'école.
et tout, ouais.
Comme à l'école, et à l'école, qu'est-ce qu'on fait en général? Soit on passe sur le surnom. Soit d'un coup, il y en a un, ça devient Guigui. Et l'autre, c'est Guillaume. Soit ça devient le grand. Tu vois, ça passe sur des choses comme ça.
Et qu'est-ce que t'en penses parce que quand il y en a qui commencent, quand je leur demande de trouver un nom de scène et tout, il y en a justement qui veulent mettre des surnoms, des blazes.
Non? Des surnoms genre quoi? Bozo?
Ouais, des trucs comme ça. Des
Ouais,
trucs.
ouais. Non. Moi, je dis, au début, il faut faire simple. Tu mets ton nom, ton prénom. Si tu as un surnom que tout le monde utilise, pourquoi pas? Et après, tu as tout le temps de changer. On a quand même un mec qui s'appelle Lamine Lesgade. Plus personne se souvient qu'il s'appelle Lamine Lesgade, hein.
Ouais, mais c'est des fois il y a des surnoms un peu chelous. Et je me dis, moi ce que je leur dis c'est que il faut le désamorcer quoi. Si je dis et maintenant mouche mouche.
Ah, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Il n'y a pas un succès qui soit construit avec un prénom comme ça. Non, mais c'est juste, ça tire vers le bas en fait. Mais je vais prendre un exemple. Pour moi, ceux qui utilisent un nom simple ou un truc comme ça va être. On va prendre Verino. Verino, il s'appelle Verino, il y a toute une histoire pourquoi il s'appelle Verino. Tu vois, il a réfléchi, il a été justement, il était homonyme d'un joueur de tennis et tout. Tu vois, il a même Navo. Tu vois, mais c'est, y a même c'est une autre histoire. Tu vois, c'est un surnom, quoi. Mais tu vois, c'est très identifiable.
Ouais, mais imagine, personne connaît Navo. Il dit maintenant je présente Navo. Il dit bonjour, moi je m'appelle Navo. Il faut quelque chose pour dire c'est pas mon vrai prénom ou un truc, genre.
Oui, quand tu démarres, oui, effectivement, mais c'est quand le. Il faut désamorcer la bizarrerie. Il y en a qui
Ça.
arrivent, je m'appelle Madame Petit Suisse. Oui, pourquoi tu t'appelles Madame Petit Suisse alors? Ça veut dire quoi,
Si
Madame
tu me
Petit
fais une
Suisse?
blague de ouf avec, c'est cool.
Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Franchement, il vaut mieux arriver avec un truc simple. Vaut mieux son nom, son prénom. Ou alors, c'est votre prénom et votre nom modifié, genre raccourci. Et il faut assumer à 100%. On a quand même des mecs. On a un Redouane Bougueraba. T'imagines? Le nom, il fait 4 syllabes. Il n'est pas évident. Ça change quoi?
Ouais, moi j'ai un
C'est
élève,
assumer à 100%.
il se fait appeler Monster Boy
Ouais.
et il a une blague, un opener sur le fait qu'il préfère se faire appeler ça plutôt que son vrai prénom, avec un délire autour de Batman et tout, qui tue. Et c'est au moins là, du coup, on sait son vrai prénom, on sait pourquoi il se fait appeler comme ça, et tout est désamorcé, après il déroule son sketch, quoi. Moi j'aime bien
Oui.
cette idée-là, quoi. C'est
J'aime bien, mais tu vois bien que toi, dans ton panel, s'il y en a trois qui te font ça, c'est 3 fois un peu le même départ de sketch.
Ouais.
Donc, t'as, vraiment, les noms, je vous assure, quand on vous demande votre nom de scène et tout, n'allez pas chercher des trucs cosmiques. Faites simple. Je vais prendre un Paul Mirabel, c'est d'une simplicité, mais c'est un super nom de stand-up au final, hein, alors que intuitivement, Peut-être que des marketeurs, ils diraient non, c'est pas un super nom de stand-up. Hein. faites vraiment, vraiment simple, sauf si vous avez un personnage comme Froussin, il avait, tu vois, cette histoire de détective Froussin, il y avait un truc derrière, il y avait un concept.
Ouais.
Mais sans le concept, je dis faites simple, et surtout, je trouve ça très agréable de penser à quel est son nom, en fait, de se positionner sur ce débat, et c'est jamais définitif, c'est-à-dire si à un moment vous voulez revenir à échanger, pourquoi pas? Mais prenez le temps de comprendre comment vous êtes perçu. Et si vous arrivez, que vous êtes une femme, que vous dites « je m'appelle Marcel », ça dirait que vous êtes obligé de l'adresser. Donc réfléchissez s'il ne faut pas aller au plus simple, faire quelque chose qui se retient bien, qui s'entend, voire un peu simplifié sur l'écriture, sur l'orthographe. Ce n'est pas très grave ça.
Comme Johnny Hallyday.
Voilà. Tu sais d'où ça vient, ouais.
Oui, oui.
Voilà, mais c'est les mecs, ils ont réfléchi, ils sont pas bêtes, Jack Reaver, c'est tout comme ça, ils sont allés prendre les noms des films d'Elvis, des choses comme ça, et ils y vont, quoi.
Ouais.
Bah, en tout cas, il faut, moi je dis, c'est un truc qu'il faut adresser, prenez du temps à savoir comment vous signez, comment vous êtes identifié, vous pouvez toujours changer, n'hésitez pas à faire un petit sondage, mais si c'est des trucs trop fantaisistes, genre carottes poilues ou quoi, moi, en stand-up, je n'ai pas d'exemple. En fait, c'est juste, j'ai pas de contre-exemple de prénoms comme ça, de trucs farfelus comme ça qui soient marquants.
C'est vrai.
Et le game du stand-up, c'est pas le game de YouTube. Hein. Vous pouvez être sur YouTube, vous pouvez être le rire jaune. Vous pouvez. Il y a quoi de nom un peu bizarre comme ça? Vous pouvez être Zerator, vous pouvez être Inoxtag, vous pouvez être. Voilà. Mm. Mais c'est pas la même chose de stand-up. Ça s'adresse pas aux mêmes personnes.
C'est vrai, c'est vrai. Surtout que la bizarrerie. Avant de vous connaître, on n'aime pas ça. En stand-up.
Ouais, en tout cas, c'est rarement payant de suite à bizarrerie. Mais... Ouais. Et encore, moi, je vois que souvent, les gens utilisent le mot bizarrerie pour dire qu'ils sont pas très drôles.
Ouais.
Souvent, les gens me disent, ouais, non, mais moi, je suis bizarre. Moi, mon univers est bizarre. Je fais, non, mais explique-moi ton sketch que c'est. Non, mais tu vois, moi, j'ai des pensées bizarres. J'ai... Je fais, non, mais je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir les blagues. Je veux savoir, on parle de quoi. J'ai mal à traduire parce que je suis trop bizarre. Non, mais ça, c'est ta construction mentale. Et tu vois, souvent, on se sert de ça parce que des fois, on n'est pas clair envers soi-même, pas clair envers ses trucs. Et on veut justifier ça par une sur-originalité que les gens, éventuellement, ne pourraient pas comprendre. Et moi, je suis d'accord qu'ils ne comprennent pas parce que tu n'as pas la technique pour leur faire comprendre.
Bah, l'art du stand-up, c'est de faire comprendre ce qui s'est passé dans notre tête à des gens de manière claire.
Ah, c'est rendre des choses drôles.
Ça consiste en ça, c'est donc si c'est toujours tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le temps bizarre à partir du moment où c'est dans ta tête. Et c'est après la technique qui fait que quand tu le dis avec des mots, c'est clair pour tout le monde, quoi.
Mais... Écoute, je pouvais pas mieux résumer. Est-ce que ça te va si on parle des sujets d'actualité en fait, tout simplement, c'est les spectacles qu'on a vus récemment.
Ouais.
On a vu le spectacle de Nate Bargatze.
Ouais.
Alors, Nate Bargatze, le spectacle, il est sorti sur Amazon. Alors, c'est un des premiers... Ouais, il fait partie de la première vague de gens qui quittent Netflix pour aller se produire sur Amazon. Alors que c'était quand même un pur produit Netflix, Nate Bargatze.
Il a commencé avec des 30 là-bas. Et...
Donc, c'est un peu un move... C'est un move intéressant. Ça on avait eu Jim Gaffigan qui l'avait fait.
Ça vient d'où, tu penses?
Je pense qu'ils sortent le portefeuille. Hein.
C'est tout, tu penses? Parce qu'il n'y a pas d'autres raisons.
Amazon Prime, c'est il y a plus d'abonnés que Netflix.
Ok.
Aux États-Unis. Après, c'est aussi dû au fait que c'est dans le pack Amazon. Quoi, Prime Video, c'est avec Amazon Prime. La proposition de Prime Video aux États-Unis est vraiment meilleure que ce qu'on a ici. On croit qu'on a le même service, mais on n'a pas du tout accès au même service.
Ouais.
J'ai halluciné à New York, c'était tellement... En fait, quand je l'avais à New York, je me disais, mais pourquoi j'ai Netflix, en fait? Ça sert à quoi d'avoir Netflix quand j'ai ça sous les yeux?
Moi, quand je vais en Tunisie et que je vois que la moitié d'Amazon et de Netflix, je ne l'ai pas, je me rends compte qu'on n'a pas
c'est
la même
chose. C'est drôle, hein.
Je ne m'étais jamais rendu compte, quoi, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Et il y a en plus Prime, alors pour faire parenthèse Prime... Au cas où vous posiez la question, là récemment, Prime, ils ont un peu fait évoluer leur modèle économique. Vous pouvez vous abonner à d'autres chaînes. En particulier, il y a le Pass Warner qui est sorti. OCS, Orange Ciné-Série, ils avaient le catalogue HBO jusqu'à présent. HBO, c'était très intéressant, c'est que outre les séries Game of Thrones, Succession et choses comme ça, ils avaient tout un catalogue de stand-up qui était inhérent à ça. Ils perdent le catalogue HBO, c'est le Pass Warner qui le récupère. Ça va sur Amazon Prime. Je prends le Pass Warner sur Amazon Prime, plus de stand-up.
Ah ouais?
C'est-à-dire que je ne sais pas où est mon stand-up. Il est dans l'espace actuellement. Je ne sais pas où trouver mon stand-up.
Les spectacles de Dan Soder, c'est
Y a
de...
pas, ils sont pas sur le Pass Warner. Sachant que la navigation sur Prime, quand tu rentres dans Warner, mais
Sur
tu
Prime
as
en
des
général, hein,
sept,
c'est horrible.
ouais, c'est Prime, c'est horrible, et tu as sept sous-chaînes. Et puisque je critique Prime, je vais faire un big up à un autre système, à un autre service, où là j'ai halluciné de l'inverse, où j'ai trouvé que c'était une simplicité de naviguer et que j'avais toujours des trucs qui me faisaient un peu envie, c'est Canal+.
Ouais.
Canal+, là j'ai accès à Canal+, mais c'est... Moi j'ai jamais eu Canal+ de ma vie, là je l'ai eu les derniers mois, mais qu'est-ce que c'est bien fait? Il y a toujours une proposition qui vient, qui pop, qui me dit et qui correspond à peu près à ce que je voudrais voir. Il y a... Le catalogue est large, le catalogue est clair, vous pouvez ranger de mille façons possibles. Je mets de côté mes favoris quand ils sont de côté, c'est très visuel. C'est pas une simple liste, je vais sur une page dédiée à mes favoris et ils me sautent aux yeux. Donc voilà, je vous recommande fortement Canal+ pour ça en tout cas.
Si vous avez moins de 26 ans, Canal Plus Ra Plus, vous
C'est
avez
incroyable ça, hein? On peut en parler de l'offre
tout
parce
de A
que
à
je pense que
Z,
ça peut
quoi.
profiter à tout le monde.
Tout de A à Z, Netflix, Disney Plus, Paramount, Apple TV, Amazon, non pas Amazon, et tout le catalogue Canal Plus. Vous avez tout pour 19,90 €.
Tu l'as toi, qui est jeune?
Ouais, qui est gênant, non, je l'ai pas, mais je vais bientôt le faire là. Mais
On
j'ai
est
déjà
d'accord.
tout de base, mais j'attends de tout résilier.
Super, bah écoutez, voilà, ça c'est les petits conseils. Donc on a vu dans Nat Bargatze, parce que des fois je rajoute une syllabe, ça sert à rien. Nat Bargatze, il a sorti Hello World sur Amazon Prime. Moi je suis un peu biaisé parce que le mec, je suis très fan à la base. Mais j'ai une frustration, et ça, je vais la comprendre, c'est que le spectacle est sorti, il l'annonce sur les réseaux sociaux, moi j'attendais comme un fou. Et d'un coup, je vais sur Prime et il n'y est pas. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, je vois un message d'excuse de Nate Bargatze sur son Instagram qui dit: Ah, désolé, en fait, la sortie, là, c'est la sortie États-Unis. Et il y aura une sortie mondiale en mars, quoi. Même lui, j'avais l'impression qu'il ne savait pas que ça se passerait comme ça, quoi.
Non, mais c'est. Ils ont pas. C'est pas habituel, les sorties stand-up en vrai sur Amazon.
Ah ouais.
Sorties stand-up comme ça. Ça commence à peine. Mais donc, je sais pas.
Il y a quelqu'un qui pense à côté de toi, c'est
Je
ça?
t'ai
Qui
dit,
essaie de...
il y a des travaux. Il y a un mec qui fait des travaux depuis 2 semaines au-dessus de chez moi. Il a décidé de commencer maintenant.
Bon,
Ouais.
on va faire route, c'est pas très dérangeant pour moi. Donc le spectacle de Ned Bargatze, moi il est attendu, il est très productif. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui sort un spectacle très régulièrement, je pense que ça doit être tous les 4 ans, ou même plus rapide. Hein.
Plus rapide, ouais.
Parce qu'il est déjà sur le prochain, là je vois qu'il tourne déjà le prochain.
Il
C'est...
a, il avait fait un sur, il en a deux sur Netflix, je crois, de spectacle
Ouais, deux
junior.
sur Netflix.
Il a un
Je
30
vérifie en
minutes, il a
direct.
un autre 30 minutes sur Netflix.
Ouais. Je regarde un peu sa carrière, ce qu'il a
C'est ça.
fait.
Et en fait,
Alors, en
le
2014, il sort un premier album. Donc ça, on n'y a pas accès. En 2015, il sort avec Comedy Central un deuxième album. Alors, quand on parle d'album, c'est une forme que nous, on ne consomme pas du tout en France. Ce sont des audios. C'est-à-dire qu'ils
Ouais,
sortent leurs documents audio et vous n'avez jamais la vidéo de ça.
y en a énormément sur Spotify.
Si vous êtes anglophile, vraiment ouais, sur Spotify, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Vous pouvez trouver même des vieux trucs. Par contre, ben, c'est la limite, pas de sous-titres, vous n'avez pas les expressions du visage ou quoi. Mais c'est une façon de consommer stand-up que nous, on n'a pas. Mais c'est un peu l'équivalent de Rire et Chanson, mais très spécialisé. C'est le Netflix de Rire et Chanson.
C'est ça.
Et c'est très puissant. Hein. Donc, il sort ça, hein. Il sort en 2014 un premier, en 2015 un second album. En 2017, il fait une demi-heure dans The Stand-Up sur Netflix.
Ouais.
2019, il sort un spécial qui s'appelle Le Tennessee Kid,
Oui, pardon. Ouais.
qui est fabuleux.
C'est le meilleur, moi, je trouve, de ce que j'ai
Ouais,
vu.
son premier, il a quelque chose de tellement frais. Après, il sort deux ans après, en 2020, Great Average American.
Ouais.
Alors, celui-ci, il était un peu particulier parce qu'il était filmé en extérieur au studio Universal d'Hollywood.
C'était période Covid aussi.
Période Covid, il a été nominé pour le Grammy Award du meilleur album de comédie.
Ouais.
Et c'était assez... J'avais bien aimé, en fait, c'est toute la période Covid, j'avais bien aimé ce qui se passait autour de lui, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir de la fame. Moi, je l'ai rencontré, je crois, en 2019. Je l'ai croisé à New York. Et il commençait à avoir de la fame, il rodait le deuxième spectacle, et il a utilisé tous ces leviers-là pour faire une tournée un peu alternative où il faisait une tournée de drive-in pour contrer les contraintes de Covid. Donc, il jouait dans des grands parkings avec des gens dans des voitures, des haut-parleurs, des trucs comme ça.
Ben moi, quand j'avais vu celui-là, on en avait parlé, je crois, dans le podcast, j'avais
ouais.
l'impression que c'était un spectacle de transition. Tu vois, un spectacle genre pour le Covid, je vous donne ça en attendant le gros spectacle que je vais sortir.
C'était moins abouti, c'est clair. Hein.
C'est ça.
T'es moins abouti. Ce qui est intéressant avec ce mec-là, c'est son entourage aussi. Il est entouré, tu vois, toujours des mêmes comédiens et on voit qu'il y a un délire où il les prend avec lui en tournée. Il y a quelque chose de très sain.
Ouais, bah, ils sont beaucoup à faire ça aux États-Unis.
Et il a été nommé par le journal The Atlantic, le mec le plus gentil du stand-up. Et en janvier 2003, donc, il a sorti Hello World. Ça a été filmé à Phoenix, Arizona. Et donc, c'est intéressant, quoi. Moi, je trouve cette productivité-là, sortir quatre albums, c'est tous les deux ans à peu près, il en est, ouais, c'est ça, tous les deux ans, il sort un album ou un spectacle. C'est bien, c'est une bonne cadence. Hein.
C'est très productif, hein. Je sais pas comment ils font, mais...
Bah, je pense qu'ils tournent beaucoup, et ça me fait penser, pour moi, je le mets un peu dans la même vague, même si c'est pas du tout la même vibe que les Sam Morril, les Marc Normand.
Ouais.
Tu sens que c'est des mecs de 40 piges, mais qui sont l'avenir du stand-up.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est des gens qui... Ils ont leurs 8 ans, 10 ans de stand-up. Et là, juste, ils écrivent et ils sortent. Ils écrivent, ils sortent. Il y a une efficacité dans tout ce qu'ils font, quoi. Ils ont atteint un certain niveau qui fait que ça y est, ça déroule, j'ai l'impression.
Ah ouais, je pense qu'ils ont trouvé leur style et que ça... Et ça y va, quoi. En fait, une fois qu'ils sont... Ils sont dedans, ils s'arrêtent pas. Et quand tu dis 10 ans, ils ont plutôt 20 ans en fait, stand-up, ces mecs-là. Tu vois, ils ont 40 piges, ils ont commencé à 20 ans.
Ouais, c'est
pendant 10-15 ans, personne ne les connaît, ils font rien, puis ils commencent à avoir une autorité et là, bastonner.
Ouais, c'est une génération de stand-up qu'on connaît pas encore, nous, en France. Ça. De stand-upper inconnu qui fait ça depuis très, 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 très longtemps et qui d'un coup
tout à fait.
Pète. Nous, on a des gens qui pètent au bout de 6 ans, 7 ans.
Ouais, tu as des parcours un peu longs, comme Seb Melia ou quoi, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ces trucs-là de gens qui vivent pendant 10-12 ans de ça et qu'un jour... Pff.
Ouais.
Et encore, tu sais, il y a ce vieux proverbe là qu'il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain.
Ouais, c'est vrai.
Et ça se vérifie un peu, hein.
C'est vrai. En tout cas, ce spectacle-là, il est sous-titré en anglais et pas en français.
Donc, ça aussi, très étrange. Hein, je comprends pas le choix d'Amazon. Hein.
J'ai pas compris. Moi, en plus, il y a plein de mots que j'ai pas compris dans le spectacle. Donc, je sais pas trop ce que j'en pense.
Ah mince, c'est une vraie barrière. Hein, non, alors, moi, je te dis, j'ai regardé 15 minutes et c'est après 15 minutes. Je me suis dit, putain, mais pourquoi ils l'ont pas sous-titré en français en fait ? Mais sans faire le bonjour. Hein. Et après, effectivement, il n'y a pas l'option.
C'est sous-titré en d'autres langues. Hein. C'est même sous-titré en portugais, espagnol.
Mais je me demande, alors je vais être très clair, je me demande si. Quand je l'ai pris à la sortie, et j'ai pas eu accès à du français, qu'après ils l'ont fait sauter. Tu vois, je veux pas être parano, mais je.
C'est bizarre.
C'est assez étrange, mais bon, en tout cas, ça reste un anglais. Alors, il a une particularité, son anglais. C'est un anglais tout à fait compréhensible. Mais il faut parler anglais. C'est un spectacle qui est dit clean. Alors, ça, c'est une notion qu'on n'aborde pas souvent, mais quand on est un comédien clean, on ne jure pas. On ne dit pas de grossièreté, on n'a pas de matériel sexuellement explicite, on ne blasphème pas.
Ouais.
Alors, ce qui semble assez anodin pour nous en France est très important là-bas parce que le fait d'être clean, ça vous offre l'accès à certains réseaux que vous ne pourriez pas imaginer. Ça peut être les universités, les choses comme ça, des endroits très lucratifs qui demandent absolument à ce que les comédiens soient clean.
Ouais, même les. Ça joue dans des églises aussi aux États-Unis. Hein,
Bien
donc,
sûr.
Et puis il y a le PEGI, quoi. Qui fait que ton truc il va être accessible à beaucoup plus de monde, etc. Aux États-Unis, c'est très contrôlé par rapport à la France, quoi.
Mais et vraiment, je crois qu'il y a un truc, on sait quel comédien est clean, quel comédien est sale. Et ça compte, il faut le prendre en compte. Ouais, typiquement, moi, j'ai passé une partie de ma carrière à passer de sale à clean. Mais c'est pas parce que je suis contrôlé par les États-Unis, c'est juste que je pense qu'à un moment, vu le public que je vise et vu l'évolution de ma carrière, je préfère être de plus en plus grand public et qu'à chaque fois, j'ai enlevé les trucs sales pour en faire un truc un peu propre et c'était mieux presque même au niveau de la comédie, je trouvais ça plus intéressant.
Ouais, bah c'est. Faut savoir. Moi, je pense que c'est important d'avoir du matériel d'un peu de tout. Sinon, tu peux te prendre des gros murs, quoi.
Et le deuxième truc que j'ai remarqué dans ce spectacle, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est qu'il avait beaucoup, Nate Bargatze, de tics de langage à la base. Ce mec-là, jusqu'à son spectacle précédent, il faisait beaucoup des choses comme You Know. Il avait beaucoup de choses parasites dans son stand-up. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un effet de montage. Il n'y a plus du tout ça. Alors que c'était son style. C'était son style, c'était de rajouter ces petits trucs-là qui faisaient, qui rendaient ça un peu réel, un peu touchant. Il a viré tout ça.
Et qu'est-ce que ça a changé quelque chose?
Moi, je préfère, je trouve ça beaucoup plus audible et beaucoup plus grand public.
Donc ça n'a pas enlevé le côté conversationnel, quoi.
Pas du tout. Ouais, de toute
Ok.
façon, c'est au niveau conversationnel, là, je vais avoir du mal à faire plus fort que lui au niveau conversationnel.
Ouais, c'est ça, mais. Moi, je me demandais, est-ce que ces tics de langage-là donnent pas du truc en mode je suis dans une conversation, même dans du stand-up français, quoi, les gens qui disent ouais, tu vois, alors des c'est
C'est
oh.
insupportable au bout du deuxième.
Ouais, mais après, il y a
Ça
des
te
gens qui
casse
aiment bien,
l'oreille.
quoi, c'est ça.
Parce qu'il adopte, parce qu'eux-mêmes ont des scories, mais je pense que c'est comme un son désagréable qui reviendrait plusieurs fois dans une conversation, en fait.
Bah, moi, je me suis posé la question avec. En bossant avec des humoristes, etc. Est-ce que c'est leur enlever leur façon de parler à eux ou c'est leur changer leur façon de parler? Je sais pas trop.
Moi, je crois que c'est des tendances. Je crois que tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, tu arrêtes de dire tu vois, tu arrêtes de dire telle chose, mais il faut que la tendance elle aille vers là. Leur dire ça ne t'apporte rien. C'est comme des fois les gens qui terminent systématiquement par ah le bâtard, ah le machin. Ça n'apporte rien à ta blague. Est-ce que tu penses qu'on peut l'enlever? Est-ce que tu crois que ça irait dans le bon sens si on enlevait tous ces mots qui perturbent au final l'écoute?
Ouais, mais faut pas que ça enlève naturel. C'est ça qui est un peu
C'est ça
le
et
truc.
c'est là où je me dis, lui il a réussi un exploit, c'est vraiment il a viré tout ça et ça se passe très bien.
Ça, c'est.
Mais l'entité, si tu regardes sur les anciens spectacles, c'était insupportable, hein.
Ouais, moi, ça me dérangeait pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Les you know, yeah, tout ça.
Donc il a viré ça, il arrive avec un spectacle sur une scène à 360.
Très joli, ouais.
C'est joli et surtout tu sens que c'est un des comédiens à qui ça va le mieux ce dispositif. Comme il essaie pas de faire des claquettes, comme c'est pas que des choses explosives ce qu'il fait, il prend le temps, il marche, il peut adresser tout le monde, on voit qu'il est dans ses réflexions et j'ai pas l'impression que ce soit excluant. Alors que si tu fais une punch, une grimace d'un côté que les autres le voient pas, c'est moins intéressant pour la moitié du public à chaque fois.
T'as déjà joué en 360, toi?
Non, en... Attends. Non, j'ai jamais eu derrière en fait.
Ouais.
J'ai eu 180 forts, c'est-à-dire que ça allait un peu derrière, mais j'ai jamais eu totalement dans le dos de devoir adresser les gens dans le dos.
Ça me paraît super dur, moi, de
Je crois que ça
devoir.
se prépare. Là, à Nantes, bah, puisqu'on a parlé de nos
Ouais.
copains de Nantes, ils viennent de faire justement une nouvelle édition de leur comedy club là, dans une grande salle en 360. Et l'ambiance a l'air folle, hein.
Ça a l'air fou, mais ça a l'air d'être d'une technique pour pouvoir parler à tout le monde au bon moment, etc. Pas gâcher des punchs et tout, ça a l'air.
Ouais, ça me fait pas peur. Alors, une partie où ça me fait pas peur, et la seule partie qui est limitante, c'est que une de mes signatures, c'est le paperboard. Donc, je sais que
Ça.
déjà, c'est impossible dans ce dispositif.
Bah, tu le fais en quadruple. Tu te mets...
Ouais, j'entends de quatre feuilles à la fois.
Tu te mets au milieu, tu vois.
Non, non, mais il faut à un moment, il faut se dire que tous les dispositifs ne sont pas bons pour toutes tes blagues. Hein.
Ouais.
En tout cas, lui, il est vraiment élégant, le spectacle. C'est très joli. C'est, les caméras sont... Je trouve que la mise en scène, elle est assez effacée, en fait. Ça devient très vite nature, son spectacle.
Mm.
Là où il y a d'autres spectacles qui m'ont un peu cassé les yeux récemment, lui, je trouve ça très beau, très nature. Et il vient avec des histoires, mais... Ce qui m'en fout avec lui, c'est que l'histoire, je les trouve simplissimes.
Ouais.
Mais il arrive à rendre ça dingue.
Ouais, j'ai rien compris, moi, donc je saurais pas te dire. Mais...
Ah, putain. Alors, vraiment, un des trucs les plus forts du spectacle, c'est quand il raconte comment lui, il a été élevé en tant qu'aîné. Puis après, il parle de sa sœur. Et il dit, a priori, elle a été élevée par ses potes. Et rien que cette phrase, tout le monde comprend ce qu'il veut dire, que les parents, ils se relâchent, en fait. Et là, il déclenche tout le public. Ouais, je la vois, elle se comporte et tout. Et raconte la dernière fois, elle a acheté un bateau et un jet ski parce que personne ne lui a jamais dit non, en fait. Et il va pour partir sur une autre blague. Et il dit, ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, on a un frère au milieu. Et ouais, c'est super élégant. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Le milieu, ça sert à rien. La petite, elle est gâtée. Et moi, j'ai été élevé à la dure. Et il a une anecdote qui circule beaucoup sur les réseaux là, qui raconte, il dit, quand il était petit, une fois, on a dû aller à l'hôpital avec mes parents et les parents d'un ami. Et pour patienter, ils ont voulu nous amener au McDo.
Mmh.
Et la Happy Meal faisait 79 centimes. Mais en fouillant dans leur poche et tout, ils n'ont trouvé que 2 dollars. Donc, ils sont allés voir le plus grand, lui. Ils lui ont dit, écoute, c'est pas grave si tu n'as pas de Happy Meal. Tu vois, c'est cruel. Et lui, il a dit, ben non. Et il a dit, j'ai fait ça parce que je pensais que mon sacrifice serait récompensé à un moment ou un autre. Mais la seule récompense que j'ai, c'est aujourd'hui qu'il se moque encore de moi pour ce jour-là. Et à vrai, il remet en question le fait, mais comment tu peux être une personne de cet âge-là et pas avoir plus de 2 dollars sur toi? Comment 4 adultes peuvent ne pas réunir plus de 2 dollars et tout? Mais c'est vraiment, c'est un délire, son histoire.
Ouais, mais c'est un storytelling très... tu vois, c'est très smooth, la façon dont tu racontes les histoires, quoi.
Ouais, c'est clair, hein. Et le spectacle se conclut par un truc, mais... C'est tellement con. C'est le fait qu'il doit remplacer sa... En fait, il y a des travaux sur sa porte avant de la maison.
Ouais.
Et que le mec, il... qui doit venir, l'entrepreneur qui vient à une heure ou un peu où il veut, il est seul lui à la maison, il va ouvrir l'entrepreneur lui dit, voilà, on va devoir prendre votre porte. Il fait, comment ça? Fait, on va partir avec votre porte. Fait, mais tu vois, il dit, c'est quoi la vie maintenant que j'ai plus de porte devant chez moi, quoi? Et ce postulat, il est fou, parce qu'il dit, c'est vraiment ce qui définissait ma maison, d'avoir une porte et le fait de pouvoir rentrer, fermer, de dire que c'est chez moi.
Déjà, ce côté part du quotidien, des trucs qui, concrètes, contrairement avec l'autre spectacle dont on va parler, où c'est vraiment des histoires complètement folles à chaque fois, tu vois. Là, c'est vraiment des petits détails du quotidien très simples, quoi. Et c'est ça la signature de Nate Bargatze.
Bargatze. Et je fais une dernière parenthèse sur Nate Bargatze, c'est que le mec, il n'hésite pas à sortir des vieux stand-up à lui, des vieilles images et tout.
Ouais.
Et ce mec-là, il ressemblait à Monsieur Patate, il ressemble à rien. Et maintenant, je sais pas si ça laisse voter. Il est beau gosse.
Ouais.
Mais il est bien, il est beau gosse. Il a une super coupe. Tu vois que la coupe, elle est faite au cordeau. Il a une super couleur de cheveux. Il a perdu du poids. Il met les beaux vêtements. Il joue au golf.
Même au début du spectacle, il embrasse sa femme. Il fait un câlin à sa fille. C'est sa fille qui l'annonce pour rentrer et tout.
C'est chouette, hein.
Je sens que c'est le début, quoi, de...
La célébrité.
Ça y est, ça, de la célébrité, ça y est, ça marche bien, quoi.
La fois, il joue au golf avec Mark Wahlberg, j'ai vu sur le réseau. Et il a un podcast qui s'appelle Nightland. Je vous invite à le voir aussi, c'est cool. Mais vous voyez, c'est des gars, je pense qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils n'oublient pas ce qui les a menés là. C'est-à-dire le podcast, j'imagine bien que c'est pas encore Joe Rogan, mais ils continuent à être super réguliers. Et c'est la discussion que j'ai eue avec un pote humoriste la dernière fois qui se posait la question sur les podcasts. Et on parlait de Bill Burr. Je lui dis, mais Bill Burr, regarde, il est encore en train chaque lundi de nous envoyer un podcast d'1 heure où il s'énerve contre tout. Il en sort un le jeudi. Et pourtant, le mec, c'est un monstre de la comédie. Mais je crois que ça le maintient à un exercice, en fait.
Ouais.
Mais je te propose de passer au spectacle suivant. C'est celui de Bert Kreischer.
The machine.
Et là, on est. Autant il y en a un, c'est très naturel, très smooth, très naturaliste. Il y a l'autre, dès le début, il est là. Il enlève son. C'est une chemise, un t-shirt?
Une chemise avec
Il
les...
enlève sa chemise et il laisse découvrir son gros ventre, torse nu, comme il le fait à chaque spectacle.
Il n'est pas clean ce spectacle, hein, pour ceux qui se
Ah, le spectacle, c'est une abomination. Il commence par les histoires les plus gore que. Elles sont, mais elles sont gore, mais elles sont drôles.
Ouais.
Non, vraiment, il peut, je pense que ça peut vous repousser. Si vous ne comprenez pas le délire, vous pouvez vous dire c'est qui ce bof, c'est
La
trop
première
repoussant, c'est n'importe
blague,
quoi.
c'est une blague sur le fait qu'il a les poils du cul qui sont emmêlés et qu'il n'arrive pas à se laver le cul, quoi. C'est vraiment sa première entrée. Dire que
Mais
moi, j'ai
c'est
n'importe
pas
quel
qu'une prémisse,
humoriste.
c'est-à-dire que ça se finit, lui à quatre pattes en train de montrer son cul à
Oui,
sa femme, lui demandant d'être peigné.
c'est une phase de 10 minutes, quoi. C'est vraiment ça. Je dis à n'importe quel humoriste qui me sort cette blague, je dis, ouais, je sais pas si tu devrais commencer avec ça et tout.
Ah lui, il va frontal, hein. C'est
C'est ça.
frontal. La deuxième blague, c'est sur le fait que sa femme se serve de sa bite comme micro pour faire des blagues, juste pour rigoler. Mais il mime tout. Mais la façon dont il pose le truc, je trouve ça incroyable. Et je comprends qu'on puisse trouver ça bof, hein, mais je trouve super technique, super fort, quoi.
Ouais, le truc, c'est qu'il faut mettre en contexte le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une énorme star, mais pas que lui. En fait, dans tout son spectacle, il parle d'anecdotes avec sa femme et ses enfants. Et en gros, pour ceux qui suivent sur Instagram et sur ses podcasts et sur tout ce qu'il fait autour, il met beaucoup en scène là, sa famille.
Ouais,
C'est-à-dire
il y a vraiment
que...
une volonté, même sur les spectacles Netflix, ils ont la volonté de faire de toute l'équipe, de toute sa famille, de les mettre en avant
C'est
et
ça.
d'en faire des personnages récurrents avec des archétypes et tout.
Et donc même sa femme a un podcast et est plutôt connue aux États-Unis et tout ça. Donc il y a tout un délire où les gens... Moi, ce qui m'a plu dans ce spectacle-là, c'est que je suis beaucoup Bert Kreischer. Et donc quand il parle de ses enfants, je les connais. Quand il parle de sa
Ouais.
femme, Liane, je la connais. Genre, je vois ce qu'elle fait sur les réseaux et tout ça. Comment il... Et c'est ce qui me fait me dire... Qu'on peut se dire que tout ça, que tout ce qu'il raconte, il raconte plein d'anecdotes sur plein de sujets. On peut se dire que c'est faux, alors que tout est vrai, parce qu'on a vu
Ah,
les
mais
prémices de tout ça dans toute
sa
cette
vie, elle est
fumée.
surnaturelle depuis le début, en fait. Pour vous dire à quel point ce mec est vraiment particulier, c'est quand il était étudiant. Il était connu en tant que mec qui fait la fiesta tellement qu'il y a eu un film sur lui. C'est ce niveau de folie.
Ils ont élu l'université la plus fêtarde. C'était son université à lui, et dans son université, ils ont élu le mec le plus fou, et ça a été lui, et donc ils ont fait un film sur lui.
Et donc lui, pour vous donner une idée de ratio avec Nate Bargatze, Nate c'est 600 000 followers sur Instagram. Bert Kreischer, c'est 2,5 millions. C'est pas du tout la même amplitude de star. Hein. Là, on est vraiment sur un mec. Hein, lui, il part en tourbus. C'est énorme.
Ouais, ben lui, s'il fait des émissions de télé avec Snoop Dogg et tout, genre c'est un autre délire. Mais en tout cas, c'est vraiment là le public, il est juste là pour voir la resta et parler de des gens qu'on connaît et tout. Tout est acquis, quoi.
Ouais.
C'est pas le même métier qu'on fait en réalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est même plus du stand-up là, c'est juste Bert Kreischer qui fait des trucs.
Alors, le spectacle s'appelle Rizzle
Ouais, je sais pas ce que ça veut
Dizzle.
dire.
C'est une expression. Il sort un film le 25 mai
Ouais.
qui s'appelle The Machine Movie. Et il fait un tour du. Il fait une tournée mondiale.
Et lui, il a toujours sa même équipe dans son bus et tout, avec qui il fait des conneries, etc. Et c'est que des gens, c'est que des baisers, quoi, c'est que des fous. Mais en tout cas,
Mais ne serait-ce que Tom Segura ou quoi, c'est des mecs qui sont bizarres. Hein. Donc il va aller en Australie, il fait tous les États-Unis. Voilà, bon, cette tournée mondiale, c'est une tournée mondiale qui fait États-Unis, Australie en fait. Ça fait pas l'Europe, mais bon.
Non, en tout cas, ouais, la puissance du spectacle, c'est drôle du début à la fin, moi je trouve. C'est que des histoires complètement folles. Mais il a un côté, genre, touchant, gentil, quoi, qui en... on a envie de rigoler avec lui, quoi.
Ah, il est... Non, mais il y a vraiment quelque chose où on peut s'identifier à lui. Y a... C'est un mec... Ce qui peut repousser, c'est la nature de ses histoires qui sont un peu gore. Et aussi le fait qu'il joue beaucoup. Des fois, sa façon de jouer, ça peut faire un petit pas en arrière, un petit pas de retrait, se dire « Ah! » Ça surjoue un peu. Mais ça marche pas.
Ouais, mais faut pas le voir comme un truc. Faut pas voir comme un spectacle profond, etc. C'est du pur divertissement, quoi. C'est
Moi, au
vraiment.
début, j'avais pas compris le délire, hein, sur les précédents. Tu sais, j'avais un peu de résistance, puis quand j'ai compris le délire, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. C'est trop bien, ces histoires sont trop bien, elles sont entraînantes, il va tellement loin, et puis ses chutes. Vraiment, je dis, c'est vraiment le roi pour construire un gros truc et faire des chutes, mais improbables.
Ouais. Et même,
Elle fracasse ses chutes.
moi j'ai remarqué que dans sa façon de raconter des histoires, il met beaucoup comment dire? Il parle beaucoup de détails. Tu vois, par exemple, quand il est en train de. Il y a un moment où il raconte une histoire où il est à une tombola avec, pour une école, etc. Il dit là, le barman, il était en train de checker rapidement et d'un coup il s'est arrêté de checker doucement. Et c'est beaucoup de rêves cinématographiques.
Ah, c'est visuel, ouais. Quand il pose un décor, il pose un vrai
Pose un
décor
dé
et des vrais
ouais.
enjeux.
Et très cinématographique, je trouve des vrais trucs qu'on voit beaucoup dans le cinéma. Et lui, il aimait, je trouve c'est intéressant si, pour bosser le storytelling, de mettre plein de petits trucs comme ça, de mettre plein de petits détails, de voir la scène dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans un bar, ben, y a un barman, il y a des toilettes, il y a des trucs, et y a plein de petits trucs que vous pouvez dire pour mettre une ambiance générale, au-delà de ce que vous racontez, quoi.
C'est clair, c'est pas. Lui, le contexte, il est. Quand il démarre, le décor est clair. Quand il rentre dans l'action, il a déjà posé le décor, on sait exactement où on évolue. Et ça se voit que même lui, il pourrait positionner dans la salle où étaient les gens à ce moment-là.
C'est ça. Donc c'est pas juste un gros beauf qui raconte des blagues, quoi. C'est vraiment, et au-delà de ça, il est très fort dans le fait de raconter des histoires, quoi. Et c'est un truc, c'est très technique de faire ça, je trouve.
Ah ouais, c'est. Ouais, ils sont... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a le pendant. Pour moi, le mec qui a le style le plus proche, c'est Tom Segura.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il. C'est la même chose, mais en moins fou. Mais avec. Pour moi, il partage exactement le même stand-up, mais sur des sujets différents, avec une petite approche, une petite variation d'approche. Mais c'est très proche aussi. Si vous n'aimez pas Burke Kreischer, peut-être vous pouvez complètement adhérer à Tom Segura.
Bah, Tom Segura pose plus de questions sur stand-up. Il parle plus de choses de la vie, alors que Bert Trischer, personne n'a sa vie. J'ai
Ah.
l'impression. Tom Segura, je le trouve plus proche de moi. En tout cas, dans ses premiers. Peut-être ça a totalement changé, tu vois. D'ailleurs, il sort bientôt, je crois, le Tom Segura.
Ah bah, de toute
Mais.
façon, on peut partir du principe qu'ils les rodent ensemble, hein.
Ouais. Mais
Mais c'est
c'est.
drôle de voir que ces mecs-là, ça, c'est par génération, par affinité. Et tu vois que Burt, il est. Waouh, qu'est-ce qu'il a entouré, quoi. Qu'est-ce qu'il a entouré, qu'est-ce qu'il est respecté par le milieu.
Mais c'est intéressant. Tom, il a aussi beaucoup 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 galéré. Il avait fait un petit truc sur Insta où il était allé jouer avec Dave Chappelle et Jeff Ross. Et il était super ému, tu vois. C'était un gamin, tu vois. Et tu vois que le mec a galéré beaucoup d'années aussi, quoi.
Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, Dave Chappelle, c'est un peu la proposition champagne du stand-up. C'est-à-dire que ça se passe en jet privé, ça remplit des stades, ça prend des champis. Ouais, c'est vraiment la proposition extrême. Il a transformé l'activité en truc de fou. Ça se réhydrate par intraveineuse. Il en est là, hein.
Ouais, c'est bizarre, je trouve.
Mais tu vois, non, ce qui est marrant, c'est que tout champion que tu es, tu peux faire la plus grosse tournée. Il y a quand même un niveau toujours au-dessus, les stades, des choses comme ça.
Sauf pour Dave Chappelle, du coup.
Dave Chappelle, ce qui le. Mais tu vois, ce qui l'interroge, c'est quand vraiment la personne pense différemment. Dave Chappelle, par exemple, il a été. Dans son monologue qu'il a fait pour le Saturday Night Live,
Ouais.
la seule personne qui a pu choquer Dave Chappelle, en gros, c'était Kanye West. Avec une blague, c'était le fait que Kanye, on lui a dit, mais Kanye, vous mettez pas de grosses chaînes en or et tout. Il fait, non, mais les chaînes, c'est pour les millionnaires. Moi, je suis milliardaire. Et tu vois, du coup, Dave Chappelle, il range sa chaîne. Il range la chaîne et tout, et tout le sketch se passe. Et à la fin, c'est l'histoire comment Kanye, Adidas, tout ça, ils lui ont fermé les portes, ils ont bloqué ses comptes.
Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'il fait Dave Chappelle à la fin de l'histoire? Il ressort la chaîne. Et tu vois que Dave Chappelle, à son niveau, il peut être que influencé ou choqué par des gens plus fous que lui, quoi. En tout cas, Razzle-Dazzle, alors ça veut dire, c'est quelqu'un qui se fait, c'est une activité très remarquable, qui se fait, voilà, qui attire l'œil, qui est faite pour être le centre de l'attraction.
Okay.
Donc voilà, dans le cas de Burkreischer, c'est super logique que ce soit ça
Ouais,
son truc, quoi.
il est en train de créer une petite légende là de lui. Mais c'est en plus c'est pas depuis très 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 longtemps hein, qu'il a cette aura là quoi.
Non, non, non. Mais tu vois qui c'est pas un mec qui cultive les petites salles. C'est un mec qui est vraiment qui est là pour démonter des grosses salles.
Oui, c'est un mec qui de toute façon globalement c'est un mec qui veut se qui fait ça pour s'éclater le plus possible et notamment s'éclater ça veut dire se bourrer la gueule à un max quoi. Et
Écoute, on va terminer peut-être ce podcast en parlant d'un truc que j'ai pas encore vu, que je pense que je vais l'acheter quand même. C'est Louis C.K. qui a fait il a fait un spectacle en streaming. Il a sorti un spectacle récemment et il a fait en streaming mondial. Donc c'est un peu ce qu'avait fait Netflix aussi avec Chris Rock.
C'est ça.
Donc mais lui, la différence c'est que Louis C.K. lui il le fait en indé, il le fait chez lui, quoi, il le fait sur ses propres deniers, sur ses propres réseaux, sur son site internet.
Ouais, il est passé en autoprod de toute façon. Personne veut lui, plus personne veut de lui.
Donc ça se passait au Dolby Theater et en fait maintenant que ça a été exploité comme ça y est, il le sort enfin pour tout le monde en dehors du système de live.
En
Donc
gros,
ça s'achète du dollar.
il avait sorti en streaming où tu pouvais payer pour le voir en direct. Il a laissé 10 jours pour les gens qui ont payé.
Ouais.
Et après, il a coupé, il a mis en vente.
C'est sympa.
Ouais.
J'aime bien. Là, donc, pour 10 dollars, vous pouvez avoir ça. Pour 15 dollars, vous pouvez avoir à la fois son spectacle au Dolby, puis son film Fourth of July, qui n'a pas été distribué pour le coup. Bon, je trouve ça très honnête. Et pour 30 dollars, vous pouvez avoir le bundle avec tous ces spectacles.
C'est des prix ok en vrai.
Ouais, c'est des prix OK, surtout qu'on peut partir du principe que les spectacles de Louis C.K., les droits, ils sont un peu dispatchés,
Ouais.
que c'est toujours quand même une qualité de malade, que ce soit au niveau des blagues, au niveau même de la captation, c'est lui qui réalise, ou c'est toujours trop bien. Voilà, je me languis de voir, il y a quelques personnes dans mon entourage qui l'ont vu, mais ils m'ont pas débriefé. Toi, tu l'as vu, le nouveau spectacle?
Non, non, on me l'avait envoyé, mais j'ai pas eu le temps de le voir.
Alors, le seul souci, c'est aujourd'hui, il n'a que des sous-titres anglais.
Ouais, dans tous ces spectacles, hein, maintenant.
Bon, bah si, déjà, c'est pas mal. Hein. Mais c'est dommage parce que je trouve que sous-titres français, ouais, quoi que c'est cher, c'est peut-être cher par rapport au nombre de ventes, peut-être qu'il n'y a pas
Je dis, vous
d'économie
voulez
derrière.
devenir une star de TikTok, freinez les stand-up américains, vous les traduisez en français.
Ouais, ils t'ont pas attendu, hein, les gens. Ils t'ont pas. Crois-moi que toutes les phases de Chris Rock sur Will Smith, elles ont été traduites,
Ouais, mais il n'y en a
retraduites.
pas énormément. Il n'y a pas un
Avec
compte spécialisé de ça, tu vois.
Marilyn Manson derrière, avec les musiques trends.
Et moi, j'ai vu un autre truc. Je sais pas si tu connais l'émission Zen sur Twitch.
Ah ouais, je connais.
Et hier, il y a eu une émission Zen avec Kev Adams.
Ouais.
Et il s'est racheté. Kev Adams, c'est racheté de tout le public, quoi. C'est-à-dire que sur Twitter, il n'y a que des gens qui font dire finalement il est trop drôle ce mec. Parce qu'ils sont foutus de la gueule de tout ce qu'il a fait en fait.
Ouais.
À un moment, il y a une petite scène où ils mettent comme les caméras à la NBA où ils filment le public.
Ouais.
Avec un drapeau, il doit faire l'accent. Donc
Ah
ils
ouais, je
mettent
vois
sur
très bien,
quelqu'un,
j'ai
ils
vu
mettent
le passage.
le passage, ils mettent l'accent chinois sur. Donc, je sais pas, c'est intéressant comment là il a toute la génération qu'il a détestée, il s'est racheté d'un coup avec ce truc quoi. Ça.
Ouais, après, il faut pas croire que tout le monde déteste ou quoi. Hein. Il a un très gros public, Adam. Ça, c'est juste que
Oui,
nous,
mais
on peut
c'est.
retenir ça. Ben, écoute, c'est intéressant. Deux choses, c'est que déjà, ce truc, Zen émission, c'est un objet de. C'est incroyable. Ce qu'ils ont fait avec ce truc-là, c'est très bizarre. Je vais vous le résumer. C'est une espèce d'Eric André Show sur Internet. Tout est basé sur le malaise. En tout cas, il y a beaucoup d'humour de malaise. Ouais. C'est très étrange parce qu'il y a un vocabulaire, il y a des délires qui sont vraiment de l'Internet.
Très de rêve.
Ils sont incompréhensibles pour le grand public.
Ouais.
Mais ils ont trouvé leur public, ils ont trouvé leur récurrence. Ils ont. Quand vous regardez les clips, ils sont super bien faits, les extraits et tout. Donc, ils ont totalement adressé une génération, totalement adressé des réseaux. Ça marche bien. Et dans cet exercice-là de malaise et tout, ben, pas tout le monde s'en sort bien. Moi, j'ai vu McFly et Carlito. Quand, au sortir de ce que j'ai vu, je me suis dit, putain, je les aime pas comme ça.
Ouais,
ils sont pas sympathiques. Là où Kev Adams, il a navigué là où Lena Situation, ça en est plutôt bien sorti aussi. C'est pas un exercice facile, hein.
Non, c'est pas un exercice facile et c'est. Faut... Moi, je trouvais ça couillu de sa part quand j'ai vu que c'était annoncé. Parce que c'est.
Ouais, mais c'est, parce que c'est un peu son métier d'être un peu au top des tendances aussi.
Oui, c'est vrai. Mais c'est évident. Enfin, c'était évident. Vu d'où ça vient, que c'est vraiment des trucs que des rêves d'Internet et tout. Et que sur Internet, Kev Adams, c'est le mec dont tout le monde se fout de la gueule sur Internet. De se dire, il va aller là-bas.
Mais c'est pas tout le monde. Oui, mais c'est, tu vois, on est sur tout le monde, sur les trucs de geekerie ou quoi, mais c'est pas tout le monde. Kev Adams, ça reste un gros vendeur.
Oui, non, par rapport à la communauté de l'émission. C'est sûr que c'était sûr.
Ah oui, c'est sûr que c'est le bouc émissaire de C'est pas drôle, c'est ce nom-là, oui.
Et du coup, c'était sûr qu'en étant invité là-bas, ça allait être que du foutage de gueule comme ça. Et après,
il s'en sort sans être de cette culture, c'est ça qui est un peu drôle.
C'est ça.
Parce qu'il y a des gens qui s'en sortent. Je trouve qu'en parlant de culture, là, il y a eu LOL, il y a eu Pierre Ninet, par exemple. Pierre Ninet, on savait qu'il était dans le délire geek.
Ouais.
Mais là, il a sorti des trucs, mais c'est genre, c'est les bas-fonds de l'Internet. Il a fait des références à des trucs, il fallait y être pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il n'hésite pas, sur une émission comme ça, à faire des références les plus obscures à des jeux vidéo et à des événements de jeux vidéo d'il y a 15 ans. Mais je trouve que c'est marrant cette génération de mecs mainstream qui ont un peu ce culture internet aussi.
C'est vrai. En tout cas, Zen, j'aime
beaucoup. Ça me permet de faire la parenthèse sur Zen et sur TikTok. Vas-y. Le prochain qui prend une de mes vidéos, qui la met sur TikTok et qui essaie de la monétiser à ma place, c'est Ramal. Non, c'est pas évident en tant que créateur de contenu quand tu fais prendre du matos. Que ça va sur les réseaux, pas de la façon dont tu voudrais, que c'est pas toi qui touches la monétisation. Après, tu fais les démarches, c'est une galère. C'est pas simple vraiment de faire respecter ses droits. Hein.
Tu te fais voler beaucoup de vidéos ?
Ouais, ça arrive. Bah, ce que j'ai fait pour anticiper ça maintenant, c'est que je fais des sorties simultanées en fait sur tous les réseaux. Ah, parce que je faisais des fois, je décalais par exemple, tu sais, je mettais sur Insta, puis je pouvais attendre un peu pour mettre sur TikTok. Et ouais. En fait, non, maintenant, quand ça sort sur Insta, dans l'heure, c'est sur TikTok et sur YouTube Shorts, pour pas avoir ce problème-là, quoi. Ou le limiter.
Ouais, c'est. Il y a plein de gens.
C'est un vrai casse-tête, hein.
Bah, sur Twitch aussi, hein. Il y a plein de clips de gens sur Twitch qui.
Pire, c'est quand ils le prennent, des fois, ils le font mieux que toi. Ouais. Tu sais, le clip, des fois, moi, ils me font un truc et ils rajoutent une petite musique, un petit truc. Je me dis, putain, c'est vrai, j'aurais dû le monter comme ça, c'était mieux. et eux, ils vont te faire des centaines de milliers et toi, bon, tu plafonnes un peu, des fois.
Ouais. Il y a même des humoristes, là, hein, qui se font voler plein de blagues via le compte du Paname sur TikTok qui marche bien. Qui se font voler plein de sketchs qui tournent sur TikTok.
C'est pour ça, il faut.
Clément K, il a des vidéos à 2 millions de vues qui sont pas du tout sur
qui son donc
compte. Quoi. Clément K.
Ouais.
Il a des vidéos à 2 millions de vues qui sont pas du tout sur son compte, qui sont volées par des gens.
Mais il a pas fait un Montreux ?
Moi, c'est sa vidéo du Panab qui a été fric, mais il a fait un Montreux.
Ouais. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est vrai que ça se contrôle pas, c'est pas évident, c'est pour ça qu'il vaut mieux l'adresser en amont, mais déjà un maximum de matos. Si vous savez que c'est sorti en vidéo. C'est à nous à essayer de garder le contrôle en tant que créateur et de le proposer sur les plateformes de la façon dont on veut. Et on ne peut pas empêcher la récupération, mais au moins, on a l'exclusivité. On a la première chance de bien faire.
C'est ça.
Écoute, on a fait le tour d'un peu tout ce que je voulais. Bon, on n'est plus à ça, après on a 1h15. Je me dis, quelqu'un qui est allé jusque-là, il va encore attendre 5 minutes. Mm-hmm. Est-ce que tu as une blague que tu veux... que tu as écrit récemment.
une blague que j'ai écrite récemment.
Ou une idée que tu veux développer?
J'ai une idée sur le fait que en ce moment je rencontre des nouvelles personnes de mon âge, de 30 ans, et que souvent ils me disent qu'ils en ont trop marre des gens. Ils me disent oui, les gens, ils sont
Ah, ce mot-là,
là,
les gens, il est fou, hein.
voilà, avec leur petite vie, leur petite boulangerie préférée, leur petit resto préféré. Ils sont là, ils aiment bien rester chez eux, ils ont leurs amis, ils parlent tout le temps des mêmes trucs. Et ils me le disent, alors que moi, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi, et comme si c'était pas moi, tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis là, mais c'est moi dont tu parles là, pourquoi tu m'insultes comme ça?
Ouais. Mais c'est tout le monde, ouais, c'est tellement
Oui.
générique.
Et ils se disent oui, mais les gens ils doivent s'ennuyer et tout. Je dis bah non, moi j'ai ma boulangerie préférée, mon petit resto préféré. Donc j'ai un truc autour de ça, mais je sais pas trop comment. Il faut que je l'ancre dans le
Parce que
réel.
Jean, quand... Mais moi, typiquement, tu sais, ma compagne, je l'appelle les gens, tu vois. C'est à force de dire, tu vois, c'est les insultes un peu cachées. Ah, les gens, ils sont bêtes quand ils font ça. Mais tu vois, c'est Jack Ma qui ça s'adresse.
Mais c'est ce truc à dire les gens. Moi je trouve ça fou. Et en plus
Les gens, ils
de.
sont débiles, ils vont faire le plein et t'as quelqu'un en face qui a pas attendu 2 heures pour faire le plein
Bah
d'essence aussi.
oui, et du coup ils parlent des. Genre ils me disent. Et ils parlent concrètement de moi, mais moi ils m'aiment bien.
Ah, c'est très marrant. Ah, c'est marrant comme un truc. Il faut juste trouver, c'est vrai que c'est pas évident de trouver les exemples précis, mais tout, je pense que tout le monde peut s'identifier à ce phénomène-là.
Et j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup de gens qui sont en mode moi j'aime pas les gens.
Ouais,
Ça,
je vois très bien.
ce qui veut rien dire du tout, quoi.
Trop bien. Moi, j'ai noté dernier petit truc que j'ai noté, mais c'était un truc, c'est en retombant sur les photos. C'est qu'on prenait les photos à l'appareil numérique.
Ouais.
Avant, tout le monde avait les yeux rouges. Et tu avais une option anti-yeux
Ah
rouges.
oui, c'est vrai, je me rappelle.
Et je me suis dit, quand tu revois des fois les appareils photos, les albums photos des années 90-2000, on aurait dit que tout le monde était possédé par les démons.
Le monde, c'était que des vampires.
Ah ouais, il y avait un truc, un délire comme ça. Tiens, quand mon fils va le voir, il fait, mais putain, pourquoi ils avaient ça quasi... Je trouve ça très drôle. Voilà, c'est un truc qui ça m'a fait un remember. D'un coup, je me suis souvenu qu'on avait à la fois le truc pour lutter contre ça, à la fois quand tu le mettais, il n'y avait plus les yeux, mais tout le monde était pâle. Il y avait un délire.
Les archéologues du futur, là, ils vont être là. J'ai fait des recherches sur les yeux rouges.
C'est sûrement ça.
Les êtres humains ont muté.
Bah, ouais, la grande vague des yeux rouges des années 90.
C'était un effet de mode.
Et des pantalons trop grands. Pourquoi ils avaient des pantalons trop grands? Il n'y a rien qui était ajusté à cette époque. Bah écoute, on a terminé avec ce podcast, les amis. Donc, j'espère que ça vous a aidé d'une certaine façon, que ça vous a donné envie de voir les spectacles. Donc, il y avait Nate Bargatze, Hello World sur Amazon, Bert Kreischer, Razzle Dazzle, c'est sur Netflix. Il y a Zen Emission, c'est tous les lundis sur YouTube. Et Louis Sique, si vous voulez acheter son spectacle au Dolby Theatre, c'est sur le site louissique.com.
Et envoyer des messages à Briac si vous voulez jouer dans son comedy club, il adore ça.
J'ai une image publique et une image. Ah, mais bon, je vais finir la dernière parenthèse, parce que moi j'étais habitué, tu sais, à ne pas avoir de message sur le réseau. Tu sais, et en fait, depuis que Instagram ça a pété et que TikTok ça a pété, j'ai dû gérer depuis le début des milliers de messages en fait. Et il a vraiment fallu que je me dise, ok, comment tu réponds à quelqu'un qui te dit une dinguerie? Parce qu'ils me disent des fois il y a des trucs normaux et des fois il y a des dingueries. Et donc, c'est un petit temps dans la journée où je fais tous les messages d'un coup et je suis en mode message.
Ton propre community manager.
Ouais, bah jusqu'à faute de mieux, faute de mieux. Allez, bonne semaine.
Ciao.